Salut à tous, nous sommes le vendredi 19 janvier 2024, je suis Raph, heureux de vous retrouver. Je fais partie de la team Pronosoft, comme vous le savez. C'est un nouveau numéro de PronoLive aujourd'hui, l'émission 100% consacrée aux pronostics diffusés en direct sur YouTube et sur Twitch. Et bien entendu, disponible dans la foulée en replay à la fin de l'émission. Comme vous le savez également, je ne suis évidemment pas seul. On salue tout de suite nos deux pronostiqueurs en chef. Salut Chris, salut Nadine, comment allez-vous bien?
Salut Raph, salut tout le monde. Bah, comment allez-vous bien? Très bien.
Salut Raph, salut à tous. Tout va bien. Ouais.
Bien. Un programme complètement classique aujourd'hui. Donc, vous le connaissez, mais je vous le répète quand même. On fera un débrief du Lotto Foot 15 numéro 4 qui s'est déroulé donc dimanche dernier. On verra que les résultats n'ont pas été super sympas pour nos deux pronostiqueurs. On fera un débrief, bien sûr, des pronobooks, où là, ça s'est un petit peu mieux passé pour nos deux experts. On fera bien sûr le prono du Lotto Foot 15 numéro 6. Alors attention, il sera validé maxi samedi pour 20h40 et il sera doté d'un pacte de 500 000 euros. Les pronos, bien sûr, Bookmaker, la sélection de Chris et Nadim. Et enfin, bien sûr, la dernière section de l'émission, vous la connaissez, c'est les questions et réponses. Questions que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le chat. Seb, qui est à la technique, vous ne voyez jamais, mais je vous en parle à chaque fois, nous fera la compile en fin d'émission. Merci par avance à lui. Et voilà, c'est parti, on démarre avec le débrief du Lotto Foot 15 numéro 4. Donc c'était dimanche 14 janvier. Il n'y a pas eu de gagnant au premier rang, donc on aura certainement un report de pactole. Et Chris, tu termines à 9 sur 14. Et forcément, qui dit 9 sur 14, dit Pierluigi Collina, dit Seb à la technique et dit carton. Je pense que c'est mérité. Voilà. Et c'est pas du jaune, c'est du rouge parce qu'on sait que tu es bon, on sait que tu peux être meilleur. Bah allez, tu vas nous faire un petit débrief.
Non, ça, je trouve que c'est un peu sévère quand même. Je trouve que c'est un peu sévère, sachant qu'il y a quand même,
il y a quand même deux. Parce que moi aussi, je vais me rebeller là.
Voilà, c'est ça.
T'as le droit de contester, t'as le droit de faire appel. Hein. Il y aura une commission.
Hein. Je vais aller en commission de discipline. Ouais, c'est ça. Il y a quand même deux matchs de Coupe d'Afrique des Nations de base quand même qui ne sont pas passés. C'est Égypte Mozambique et ce Nigeria Guinée équatoriale qui sincèrement aurait dû passer. Hein. Et c'est vrai que les deux favoris ont raté un petit peu leur début. Et donc ça c'est quand même une grosse frustration sur ces deux matchs. Avec ces deux matchs, j'aurais été dans les rangs. Donc ça aurait été plutôt intéressant. Et la frustration c'est sur mon équipe, hein, Clermont, hein, qui pour moi le match à Nantes devait se terminer sur un match nul et finalement il s'impose dans les dernières minutes et il s'impose 2-1. Donc c'est vrai que je suis content que Clermont puisse et puis prendre ses 3 points. Mais c'est vrai que voilà, le nul était quand même plutôt logique sur ce match. Je reviens pas sur Lyon. Nadim, je pense, en parlera un petit peu plus tout à l'heure avec notamment les deux cartons rouges du côté des Lyonnais et la frustration de la Viola aussi qui n'a pas pu s'imposer devant l'Udinese, une formation qui est quand même en difficulté en Serie A, donc c'est assez décevant là-dessus. Par contre, j'ai quand même pas mal de satisfaction, c'est la base de Toulouse à Metz. Voilà, je suis content parce que voilà, je disais que cette équipe Messine, je pense, allait souffrir sur la deuxième partie de saison et déjà ces trois points perdus sont déjà inquiétants pour le maintien. Content d'avoir basé le Real face à Barcelone, et pourtant je suis un pro Barça, mais le Barça est en difficulté quand même cette saison, même si les Catalans sont sur le podium de la Liga. Content d'avoir mis ce nul entre Manchester United et Tottenham, un nul de but partout, donc c'était un match plutôt intéressant, et content d'avoir basé le match allemand, et c'est vrai que ça fait deux fois sur mes deux derniers lotofoot où je fais pas d'erreur sur les matchs allemands, donc c'est à signaler. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un peu sévère le carton rouge, parce que voilà, c'est Mönchengladbach n'était pas forcément le favori devant Stuttgart et cette formation s'est imposée 3-1 et c'est vrai que Stuttgart sans Guirassy, c'est pas la même équipe et je vais juste noter quand même la défaite de l'AS Rome et le licenciement de José Mourinho et ça c'est plutôt intéressant sur les prochains matchs de la Rome.
Bon, on a noté, tu as fait passer le message plusieurs fois par rapport à la commission, on en discutera mais voilà, moi je reviendrai pas sur ma décision et on va dire que Nadim n'est pas mieux loti avec un 8 sur 14, vous fautez presque aux mêmes endroits et évidemment même sanction pour Nadim, il n'y a même pas à discuter, c'est obligatoirement le rouge Nadim.
En fait,
le jaune si tu veux.
Ouais, bien sûr. Donc en fait juste on était censé faire le 13 sur 14 du seul gagnant hein, si je comprends bien hein. c'est ça que tu attendais nous. Ouais, okay,
bah. Non. Moi j'attends que vous soyez dans les rangs, c'est-à-dire à partir de 11 sur 14 même si c'est pour gagner 1,60€. Le but c'est d'être dans les rangs point barre.
Bon, de toute façon, là, la grille qui se profile, on n'y est pas encore, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on soit dans les rangs que cette grille qui s'annonçait très, très compliquée. Alors, pour mes satisfactions, bah, j'ai la même que toi, Chris, avec le Real Madrid. Et là, on ne s'est pas laissé impressionner par l'affiche. Il y avait un gros écart de niveau. Pour ma part, je n'ai pas basé Gladbach, j'ai hésité, mais j'ai mis 1N pour être plus prudent. Ça reste un double, le favori était Stuttgart, ça passe. Et la dernière satisfaction, c'est d'avoir basé les Milanais justement face à une équipe de l'AS Roma qui me décevait match après match, qui avait beaucoup de lacunes, des lacunes masquées par la paire d'attaquants Dybala à Lukaku, donc Dybala qui jouait pas pour le coup. J'avais annoncé qu'il était très incertain sur le chat. C'était assez étonné que j'annonce cette absence et pourtant il n'était pas là. Et la Roma s'est inclinée. Donc ça, c'est les satisfactions. Et la petite dernière, on va dire, c'est d'avoir couvert le Havre contre Lyon. Alors, c'est une petite satisfaction parce que ça reste un triple, j'aurais pu plus me mouiller, mais voilà, j'y ai un peu cru avec l'Olympique Lyonnais et la bonne série en cours, donc j'ai pas osé ne pas cocher Lyon. J'ai d'ailleurs dit que j'étais plus sur N2. Il fallait quand même cocher, c'est Havre, Lyon est retombé dans ses travers. Donc là, pour parler de Lyon, il y a quelques recrues qui vont arriver, mais je ne crois pas forcément au miracle. Hein. J'entends des gens qui disent qu'on n'est qu'à 10-15 points des places européennes. Il ne faut pas rêver, l'objectif, ça restera le maintien. Ça reste pour les satisfactions. Et puis les déceptions, c'est en haut. J'ai mis 2 nuls fixes qui passent à un but près, mais effectivement, Toulouse était un bon choix, Chris. Et clairement, on aurait peut-être dû pousser un peu le bouchon plus loin, puisque les Canaries étaient vraiment amputés de très bons joueurs. Et puis en bas, série de 3 nuls, j'en prends aucun. Alors, c'était peut-être possible d'en prendre 1 sur les 3, je pense, mais 0 sur 3, effectivement, un carton jaune se justifie.
On a François qui nous dit dans le chat, Raph, peut-on virer son patron ? Alors, d'abord, es-tu certain, es-tu certain que Nadim est mon patron ? Je ne sais pas, hein, ça, je te laisse cogiter. Et puis, virtuellement, si on peut le faire, on ne va pas gêner. Donc oui, je remets un rouge, d'autant que Seb s'est trompé sur le carton, il a mis un jaune. C'est pas bien grave, mais je réinsiste dessus, c'était bel et bien un rouge. Allez, on oublie l'autofoot, on a compris que c'était clairement pas une grille pour vous. On passe au débrief book, où là, ça s'est mieux passé, notamment pour toi, Chris, où tu réalises un petit 2 sur 3.
Ouais, c'était plutôt intéressant ce week-end, donc 2 sur 3 avec cette victoire des Spurs face à Charlotte. Hein, c'était le moment ou jamais pour les Spurs de gagner enfin un match. En plus, bon, cette équipe des Spurs est plutôt sur une bonne dynamique actuellement, même s'il y a pas mal de défaites, mais il y a des défaites encourageantes et Victor Wembanyama est plutôt sur une bonne période. Il enchaîne quand même pas mal de points là sur les derniers matchs et face à Charlotte, il a enchaîné quand même 26 points, 11 rebonds, donc c'est plutôt intéressant pour lui. Donc une cote à 2,30 qui passe assez facilement puisque les Spurs s'imposent 135 à 99. Il y a cette belle victoire de Toulouse en Irlande sur le terrain de l'Ulster avec au moins 7 points d'avance, donc c'était coté à 2 et les Toulousains sont imposés assez facilement aussi 48 à 24, donc ça c'était plutôt sympa. Surtout que les Toulousains se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Champions Cup. Et par contre, des regrets sur le Basse Racing, hein, c'était une cote à 3,10 la victoire du Racing. Les Parisiens menaient 10, à 10 minutes de la fin, 25-22. Ils encaissent un essai dans les 10 dernières minutes et ils ont joué pendant 7-8 minutes à 15 contre 14. Ils auraient pu peut-être récupérer un essai pour s'imposer, mais voilà, finalement ils s'inclinent, donc c'est un petit peu de frustration sur ce match. Et enfin, le fun ne passe pas. Donc voilà, je pensais que le derby basque allait se terminer sur un 0-0. Et finalement, c'est l'Athletic Bilbao qui s'impose 2-1. Et attention, la Real Sociedad n'est pas dans une très très bonne période. Et on en reparlera, je pense, tout à l'heure dans l'autofoot.
Bon, ben ça va, tu vois, tu sauves l'honneur là avec ton pronostic 2 sur 3. C'est très bien. On va enchaîner avec Nadine qui, lui, réalise un 1 sur 3.
Ouais, un 1 sur 3. Alors, ça s'est pas bien passé pour les Libanais contre le Qatar. Je voyais un match assez fermé, surtout en première mi-temps. Alors, ils ont tenu 45 minutes, mais la 45e a été fatale pour une défaite 3-0. Donc, ça, c'est un petit manque de réussite quand même. Ils auraient pu attendre 2 minutes de plus. Après, du côté de Marseille, ben, l'OM va pas très bien. Ils ont fait un nul 1 partout contre Strasbourg. Ils ont été quasi inexistants. On va sûrement en parler dans les pronos. Donc, l'OM qui était pas là et Aubameyang non plus. Donc, ça passe pas. Et j'ai été sauvé par ma double chance de la doublette du Milan AC qui carbure bien en ce moment. Et heureusement, donc, Olivier Giroud a mis un très, très beau but pour une victoire 3-1 du Milan AC. Et ça me sauve l'honneur sur ces 3 pronos. Et enfin, le fun est enfin passé. Donc, je voyais vraiment une raclée du Barça. Donc, j'ai annoncé un 3-1, mais dans ma tête, ça pouvait monter à plus. J'avais même hésité à vous proposer l'autre score et bien m'en a pris de ne pas proposer l'autre score puisque le Real s'est arrêté à 4-1. Mais le pari fun passe avec une cote à 5,30. Donc, si vous aviez mis 0,5 unités, ça devait rembourser le week-end.
Ouais, bravo à toi. On rappelle que les pronos fun ne rentrent pas en compte dans la comptabilisation du bilan général. Merci messieurs pour ce débrief tant du côté du l'autofoot que du côté des books. On enchaîne avec l'avenir, c'est déjà demain, c'est l'autofoot 15 numéro 6, pactolé à hauteur de 500 000 euros, on le répète, hein, vous ne pourrez pas valider dimanche. C'est jusqu'à demain, 20h40, une grille avec 14 matchs, 6 matchs de Coupe de France, 1 de Serie A, 1 de Bundesliga, 1 de Première Ligue, 4 de Liga et un match de Coupe d'Afrique des Nations. On va démarrer avec Chris et le premier match, c'est Orléans, pensionnaire de National, qui reçoit donc le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Et tu vois le Paris Saint-Germain s'imposer, Chris.
Oui, normalement, pour moi, pas de surprise sur ce match-là. C'est, Orléans, c'est un pensionnaire de National 1 et c'est le 12e hein, seulement du au classement de National 1. Donc, voilà, c'est une formation qui a quand même éliminé une Ligue 2 au tour précédent, la C Ajaccio, et ensuite une équipe de National, le Nîmes Olympique. Donc, c'est plutôt deux performances intéressantes. Mais je pense quand même que le PSG est largement au-dessus de cette équipe du Loiret. Donc, le PSG a joué le jeu face à Revel avec cette belle victoire 9-0. Les Parisiens ont ensuite enchaîné en Ligue 1 avec une belle performance à Lens et ce succès 2-0. Je pense que les Parisiens pardon, sont sur une bonne dynamique. La Ligue des Champions n'est pas encore là, donc les Parisiens peuvent tranquillement se consacrer à la Coupe de France et au championnat. Donc pour moi, une victoire logique du PSG.
Ouais, Nadim, est-ce que tu es dans le même esprit? Est-ce qu'on peut parler de formalité éventuelle?
Formalité, c'est toujours très dangereux d'utiliser ce terme, mais je vois les Parisiens quand même passer. Là, ils restent sur 3 matchs en 2024 avec 3 clean sheets, Revel 9-0 dont tu as parlé, la victoire également dans le trophée des champions contre Toulouse où ils ont bien démarré la machine en premier match de 2024, 2-0, contre Lens 2-0, donc toujours pas de but encaissé. Même si Orléans carbure assez bien dans son championnat du national, ça sera compliqué de résister.
Ok, merci. Deuxième match toujours en Coupe de France. C'est un duel entre pensionnaires de Ligue 1. C'est Rennes qui accueille Marseille et vous êtes d'accord tous les deux. Chris, tu vois Rennes peut-être faire de la Coupe de France un de ses objectifs.
Oui, je pense que ça peut être un objectif pour les Rennais, sachant qu'ils sont pour l'instant un petit peu largués en championnat, mais voilà, je pense qu'ils peuvent encore aller chercher une place européenne par le biais de la Ligue 1. Mais voilà, je pense que c'est un objectif pour les Rennais. Là, actuellement, ils restent quand même une belle série de 3 victoires. Il y a un succès à Guingamp en Coupe de France, une belle victoire à domicile devant l'OGC Nice, qui est quand même le dauphin du PSG en Ligue 1. C'est une équipe rennaise qui est seulement il y aura un seul absent, hein, pardon, c'est Amine Gouiri, hein, qui est un seul absent majeur. Du côté de l'OM, il y a énormément d'absents et des absents de taille. Hein, donc c'est Rongier, Correa, Mbemba, surtout dans la défense, Unai, Amin Harit, Ismail Assar, Ndiaye, ou encore Ronan Lodi, là, qui vient d'être transféré en Arabie Saoudite. Donc ça, je pense que c'est un départ quand même assez important pour cette équipe marseillaise. Sur le côté gauche, Ronan Lodi était quand même un solide titulaire. Donc voilà, les Marseillais sont quand même, je trouve, en difficulté. Ils sont imposés difficilement face à Thionville en Coupe de France, une victoire 1-0. Thionville qui est une équipe de National 3. Et ils ont été accrochés assez logiquement, je trouve, par Strasbourg au Vélodrome, un nul, un but partout. La prestation des Marseillais face aux Alsaciens était quand même assez faible, je trouve. Donc voilà, je pense que les Marseillais vont être en difficulté à Rennes et je vois une victoire des Rennais.
Ouais, Nadim, tu avais misé sur Aubameyang la semaine dernière, mais tu vois peut-être le souffler justement Aubameyang retomber un tout petit peu.
Oui, il est en train de retomber et puis les absences marseillaises, tu viens de le dire Chris, font assez mal quand même dans le jeu parce que c'était assez pauvre contre Strasbourg. Le nul était plus que mérité pour les Alsaciens et au contraire, les Rennais justement, je pense qu'ils ont effectué leur meilleur match de la saison contre l'OGC Nice. Ils ont maîtrisé le match de bout en bout, ils auraient pu en mettre bien plus sans le géant Bouka dans les cages niçoises qui a fait des arrêts somptueux. Ça aurait pu être même une raclée pour les Niçois. Le gardien a masqué pendant longtemps les lacunes niçoises, mais Rennes a réussi à faire la différence. Je vois vraiment les Rennais faire quelque chose en coupe et ne pas attendre la fin du temps réglementaire pour s'imposer au pénalty, je l'espère, et une base sèche rennaise.
On reste en Coupe de France pour ce match numéro 3. C'est Châteauroux, pensionnaire de National, qui reçoit une équipe de Ligue 1, à savoir le Havre Athletic Club. Tous les deux, la balance penche vers le Havre, mais avec une couverture avec le N du côté de Chris.
Ouais, je me couvre quand même avec le match nul parce que, bon, on le sait, en Coupe de France, il y a souvent quelques petites surprises ou quelques formations de Ligue 1 qui se font accrocher, qui s'imposent après, mais qui se font accrocher dans le temps réglementaire. Alors, c'est vrai que les Havrais, là, restent quand même sur de bonnes performances, là, sur ce début d'année, avec cette victoire dans le derby en Coupe de France face à Caen, cette belle victoire face à Lyon en Ligue 1, 3-1. Mais je me méfie quand même de ce déplacement à Châteauroux. Ça sera dans un contexte quand même assez difficile. Hein, donc, il y a eu pas mal de neige ces derniers temps dans l'Indre. C'est un match qui peut être compliqué. compliqué pour les Havrais. Alors je vais pas jusqu'à miser une victoire de Châteauroux parce que Châteauroux est quand même amputé de pas mal de titulaires, hein. Donc il y a le gardien notamment Konaté, hein, avec le milieu de terrain Gassama, c'est des garçons qui sont partis à la CAN, donc c'est quand même des joueurs importants pour cette équipe de la Berrichonne. Il y a la suspension aussi de son attaquant malien Thiemoko Diarra, donc c'est aussi une perte du côté de la Berrichonne. Mais je vais quand même me couvrir avec ce match nul parce que voilà, je me dis qu'en Coupe de France, de temps en temps, il y a quelques petites surprises.
Ouais, pas de couverture du côté de Nadim, je le disais.
Non, pas de couverture, même si c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de prolongation dans cette nouvelle formule de la Coupe de France est quand même un plus pour les petites équipes qui n'ont que mentalement 90 minutes à tenir pour aller sur une séance un peu loto malgré tout de tir au but. Mais ça ne m'empêche pas de baser les Normands parce que je trouve que déjà les Castelroussins, ils ont eu pas mal de difficultés à passer le tour précédent face aux Herbiers. Ils se sont imposés justement lors de la séance des tirs au but. Pourtant, c'était une équipe un peu plus faible qu'eux. Là, je pense que l'obstacle sera de plus haut niveau, surtout que les Normands, ils ont vraiment bien débuté 2024, non seulement en battant en coupe leur voisin Canet 2-1, mais également en dominant l'Olympique Lyonnais 3-1 en championnat. Donc, ils peuvent respirer en championnat, se consacrer à 100% à cette compétition pour pourquoi pas faire un bon parcours en parallèle du championnat. Et je base les Normands.
Toujours en Coupe de France, un nouveau duel fratricide entre Clermont et Strasbourg. Un match super équilibré sur la réparte, puisque à l'heure où on se parle, on est aux alentours de 34, 31 et 34. Et ça se ressent sur vos pronos, parce que tous les deux, vous sortez le joker ultime.
Ouais, c'est ça, un triple pour moi, difficile de faire un choix. Clermont c'est 17e de Ligue 1, Strasbourg est 9e, classé dans la première partie du tableau. Clermont a réussi un bon début d'année 2024 avec cette victoire à Metz en Coupe de France, donc une victoire arrachée quand même au tir au but. C'est une victoire aussi à Nantes, hein, je le disais tout à l'heure, donc c'est deux bonnes performances. Les Auvergnats sont toujours privés de deux joueurs importants, hein, Jérémy Bella et Alidou Seydou, mais ils vont récupérer quand même le patron de la défense, là, Maximiliano Coffrier. Donc j'aurais pu peut-être me tourner vers cette équipe clermontoise, mais Strasbourg est actuellement en confiance. Hein, c'est une formation qui n'a perdu qu'une seule fois depuis la fin du mois d'octobre 2023. Et les Alsaciens restent quand même sur une série de 6 matchs sans la moindre défaite. Strasbourg a récupéré, on le disait tout à l'heure, un bon point de son déplacement au Vélodrome, mais un point largement mérité. Donc voilà, je me dis que les Strasbourgeois peuvent aussi aller s'imposer à Clermont. Et en plus, les trois dernières confrontations sont terminées par 3 nuls. Donc je vais pas prendre de risque, je vais tripler. Et si j'avais une préférence, j'irais plutôt sur le match nul.
Merci. Joker également pour Nadim.
Ouais, Joker également pour moi. Et je commence effectivement par le match nul. Je vois d'ailleurs un 0-0 a priori sur cette rencontre, mais le 0-0, c'est toujours un score assez fragile. Ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Les deux équipes sont relativement en forme. Strasbourg, 6 matchs sans défaite, dont 4 victoires. Et puis Clermont vient de rebondir et de se relancer un peu pour la lutte pour le maintien en championnat. Donc le moral ne sera pas à zéro. Ils savent qu'ils ne seront peut-être pas condamnés pour cette Ligue 2. Tout est possible ici. Vraiment, c'est le Joker absolu.
Merci. Match numéro 5. On est toujours en Coupe de France. C'est Sochaux, pensionnaire de National, qui reçoit Reims, qui lui évolue en Ligue 1. On verra que Nadim fait confiance au Rémois, alors que Chris joue un deuxième triple consécutif.
Ouais, et je vois bien une surprise sur ce match, sincèrement. Je vois cette équipe sochalienne réaliser encore une fois une belle performance. Sochaux, on va le rappeler, a sorti le FC Lorient, donc club de Ligue 1 au tour précédent. Le FC Sochaux, c'est une équipe qui est cinquième en National 1, qui lutte pour accéder en Ligue 2. C'est une formation qui reste sur une belle série de 5 victoires, toutes compétitions confondues. Pendant cette période, Sochaux, c'est quand même 14 buts inscrits, donc c'est une équipe quand même qui est performante, qui est invaincue dans son stade, donc à Bonal, depuis le 7 octobre 2023. Ces Sochaliens ont quand même pas mal de joueurs d'expérience qui ont connu la Ligue 1, hein, donc je vais en citer quelques-uns. Je sais pas si ça c'est des noms qui reflètent tout le monde, mais il y a Tony Mauricio, il y a Thomas Fontaine, Rolly Pereira de Sa, il y a Kofi, Kevin Zoe qui a joué à Strasbourg, Jodel Dossou aussi qui est passé aussi par moments à Clermont. Il y a un garçon qui a joué en Pro League en Belgique, Kevin Ogas, donc c'est une formation qui est plutôt intéressante. Je me dis que les Sochaliens peuvent créer un nouvel exploit et réaliser un nouvel exploit et battre ces Cérémois. Alors c'est vrai que je triple quand même parce que Reims reste sur une très très belle performance et cette victoire à Monaco 3-1. Mais voilà, je me dis que les Sochaliens peuvent le faire. Et en plus du côté de Reims, il y a quand même des joueurs importants qui sont absents, hein, Richardson, Mounetsi, Boussi, le capitaine Younis Abdelhamid, Diakité et les deux Japonais Ito et Nakamura. Donc voilà, c'est un triple, mais vraiment ma préférence est du côté de Sochaux.
D'accord. À l'inverse, Nadim, lui, ne voit pas Reims buller dans le Doubs.
Non, je les vois plutôt pétiller même à l'image de leur match réalisé contre Monaco. Alors c'est vrai qu'il y a de nombreuses absences que tu viens de rappeler, dont les deux Japonais, mais ça semble pas vraiment les perturber puisqu'ils justement ils ont été dominés les Monégasques sur le rocher 3-1. Monaco qui était également amputé de quelques éléments, mais quand même il y avait une belle équipe de Monaco en face. C'était une Ligue 1, là ça va être une nationale. Alors c'est vrai que Sochaux enchaîne plutôt les bonnes performances, notamment à domicile, et puis a éliminé le FC Lorient, club de Ligue 1. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un club de Ligue 1 quand on est bon dernier dans le classement de l'élite et qu'on est la pire défense du championnat, et en plus avec des joueurs qui sont partis à la CAN. Donc je relativise cette victoire acquise à l'une seconde de jeu contre le FC Lorient au tour précédent, et là je vois les Champenois s'imposer dans ce déplacement.
Merci. Le match numéro 6, ce sera le dernier de la Coupe de France de cette grille. C'est Rouen qui évolue en national, qui reçoit Toulouse. Une nouvelle fois, vous jouez chacun un triple. Et de mémoire, donc Chris, je n'ai pas souvenir que tu aies déjà joué 3 triples consécutifs. C'est anecdotique, mais quand même, j'ai pas souvenir de ça.
J'enchaîne des triples jusqu'à la fin. Je tiens à signaler. Mais ouais, c'est un match qui difficile à lire pour moi. C'est une équipe de Rouen qui est en course pour la montée en Ligue 2. C'est une équipe du FC Rouen qui vient d'aligner 5 victoires, qui n'a perdu qu'une seule fois depuis le 15 septembre 2023, qui est invaincu à domicile depuis le début de la saison. Donc c'est une formation voilà qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, je pense. C'est vrai que cette équipe toulousaine s'est rassurée là en Ligue 1 avec une précieuse victoire à Metz 1-0. Mais il manque encore pas mal de joueurs du côté de Toulouse. Hein. On est Kében, Genro, Schmitt, Dessler, Magri qui est parti à la CAN, Moussa Diarra et bien sûr le buteur Abouklal qui est toujours absent. Je me dis que les Toulousains peuvent chuter, même si Toulouse est le tenant du titre. Ils peuvent chuter à Rouen, donc je ne prends pas de risque et je triple ce match.
Ouais. Nadim, grosse couverture également.
Ouais, là, les mêmes arguments que Chris. Rouen n'est qu'à 4 points de la deuxième place qui pourrait être synonyme de montée en Ligue 2. Donc Rouen est plutôt pas mal en championnat. Toulouse, c'est vrai qu'ils ont perdu le trophée des champions 2-0. Ils ont bien réagi ensuite avec 2 victoires en coupe et puis 1-0 contre Metz. Mais ça sent le match piège. On a peut-être la même intuition. Même si Chris t'a bombardé de triples sur cette coupe, tu sens quelques matchs pièges. Je pense que Rouen-Toulouse, c'est ma priorité pour les surprises en coupe.
Ok, merci. On en a donc terminé avec la Coupe de France. On se dirige maintenant vers l'unique match de Serie A qui opposera l'Udinese au Milan AC. L'Udinese 16e, le Milan AC 3e. Gros delta de points puisque Udinese c'est 18 points, le Milan AC c'est 42 points. On verra que Nadim fait confiance à Giroud et consort. Alors que Chris penche vers le Milan, mais il laisse traîner quand même la patte avec un N.
Oui, je laisse traîner un petit nul. Alors c'est vrai que le Milan est quand même favori de ce match, 16e, 3e, tu le disais. Le Milan est bien calé sur le podium. Alors c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de points de retard sur les deux premiers, l'Inter et la Juve. Donc le Milan est un petit peu dans l'obligation de s'imposer à Udine. Le Milan a été éliminé de la Coupe d'Italie récemment, donc les Milanais peuvent se concentrer tranquillement sur le championnat. En Serie A, ils viennent de s'imposer devant l'AS Rome, donc ça c'est plutôt une bonne performance. Ils restent sur une série là de 5 matchs sans la moindre défaite, avec un succès à Empoli qui est un concurrent direct de l'Udinese pour la course. Dans la course pour le maintien. Donc je me dis que voilà, ma première croix c'est le Milan AC, mais attention à cette équipe de l'Udinese qui quand même vient de s'accrocher avec un bon point récupéré à Florence, hein, ce 2-2. L'Udinese c'est quand même 12 nuls en 20 journées de Serie A, donc c'est une formation quand même qui est très accrocheuse. Donc je me dis qu'il vaut mieux laisser traîner un nul sur ce match.
Ouais, Nadim, donc toi tu fais du Milan AC une base.
Oui, je fais du Milan AC une base. J'ai hésité à mettre un N2, préf 2, mais voilà, faut faire des choix un peu plus forts. Surtout que le Milan AC revient bien en forme sur ses derniers matchs. Ils ont enchaîné les victoires, surtout en championnat. Ils ont peut-être fait un peu l'impasse sur le match de coupe contre l'Atalanta de Bergame, qui était leur seule défaite récente. Donc une équipe du Milan qui est emmenée par la peur, Giroud, Leao qui marque à chaque match, on peut le dire maintenant, puisqu'ils enchaînent depuis 6 ou 7 rencontres à chaque fois en marquant au moins un but. L'Udinese de son côté reste sur une défaite à domicile contre la Lazio, même si elle était un peu cruelle comme défaite puisqu'il y avait eu de nombreuses occasions. Ils viennent d'obtenir un bon nul sur la pelouse de la Fiorentina, mais la Fiorentina qui est un peu dans le dur dans ce début de saison et qui est moins efficace, à qui il manque quelques joueurs dont Nicolas Gonzalez. Donc je relativise un peu ce match nul en déplacement. On peut noter quand même juste que le but du 2-1 pardon, pour l'Udinese à Florence, c'était un certain Florian Thauvin qui est venu dans cette équipe au mercato hivernal. Donc à part cela, je vois quand même les Milanais s'imposer et enchaîner sur leur forme actuelle.
On nous précise dans le chat, c'est une remarque de Ma, donc M-A, il nous dit « Aucun intérêt, ce Lotto Foot trop de bases. Alors, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas la grille de l'année, on est d'accord, mais quand tu dis trop de bases, moi, je serais ravi que tu les postes dans le chat et on fait un bilan la semaine prochaine. Ou alors, il faut jouer les matchs au côté match, quand c'est comme ça, Nadine. Quand on voit vraiment des choses, moi, quand je vois aucun intérêt sur l'autofoot trop de bases, je suis un petit peu étonné parce que qu'on me les donne et je vais jouer cette triple en moins 1 et avec 6 bases, quoi, ou 7 bases.
Non seulement cela, après il y en a peut-être 2 ou 3 qui devraient passer à 99%, mais ça peut faire un LF 11, même un LF 10. Un LF 10, ça paye déjà les autofoot 8, ils ont des rapports moyens à 2, 3 ou 4 000 euros. Donc un autofoot 10, si tu prends 10 000 euros et que ça te semble cadeau, ben, il faut y aller justement. Ouais, après, je vois pas ça. 500. Je vois pas 500 gagnants sur cette grille. Il y aura des pièges, les matchs de coupe, c'est des déplacements. On va voir la suite et nos pronostics. Et puis, on demande que ça, à ce que tu fasses un 14 si elle te semble facile. Mais poste-nous ta grille en 3 triples, 3 doubles, même si tu veux.
Ouais, effectivement, ça serait une bonne idée. Allez, on enchaîne avec le match numéro 8. On se dirige vers l'Allemagne et la Bundesliga. C'est le Bayern de Munich, deuxième du classement, qui reçoit le Werder de Brême, qui lui est 13e. Là, encore une fois, un énorme delta de points, puisque le Werder, c'est 17 points. Le Bayern, c'est 41 points et pas de détails de ton côté, Chris.
Oui, je pense que le Bayern va s'imposer. Le Bayern s'est bien débuté l'année 2024 avec une belle victoire devant Hoffenheim 3-0. C'est difficile d'imaginer quand même une performance du Werder. Le Bayern est quand même invaincu en Bundesliga à domicile. En 8 matchs, le Bayern a inscrit quand même 33 buts. Donc, c'est vraiment une équipe qui est impressionnante dans le secteur offensif. À l'aller, le Bayern s'était imposé 4-0 à Brême. Et en plus, le Werder de Brême, c'est aucune victoire à l'extérieur cette saison. Et le Werder a été battu à Dortmund, à Stuttgart, à Fribourg ou encore à Darmstadt. Donc, pour moi, un large avantage du côté du Bayern.
Ouais, Nadim, des arguments à rajouter en plus?
Ouais, c'est normalement, c'est large avantage. Le Werder, c'est vrai qu'il reste quand même sur 3 nuls en championnat. Donc, on pourrait légèrement douter de cela, d'une base du Bayern. Mais le Bayern à domicile fait la différence. En plus, j'ai regardé la cote des bookmakers. La cote la plus haute, c'est 1,08. Ça veut tout dire et il faut baser ce match.
Très bien, merci. Match numéro 9, on change à nouveau de pays et de championnat. Direction la Première Ligue entre Bournemouth, 12e, qui accueille le leader Liverpool. Bournemouth, c'est 25 points. Liverpool, c'est 45 points. Un petit peu plus prudent du côté de Nadim, pendant que Chris, fait confiance aux Reds.
Oui, c'est une petite confiance, hein. Je comprends le match nul. Ce Bournemouth, c'est une équipe quand même toujours difficile à manœuvrer. Maintenant, voilà, je vais miser sur la dynamique, sur la forme des Reds, hein. Les Reds n'ont plus perdu là depuis 13 journées. Sur ce début d'année 2024, c'est une victoire devant Newcastle en championnat 4-2, une victoire Arsenal en Coupe d'Angleterre, un succès devant Fulham en League Cup. Donc c'est vrai que même si Liverpool a perdu Mohamed Salah, qui est parti à la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que Liverpool a quand même un quatuor offensif de très très grande qualité avec Darwin Núñez, Luis Diaz, Diogo Jota, Cody Gakpo. C'est une formation qui est en pleine confiance. Alors c'est vrai que Bournemouth est toujours difficile à manœuvrer, mais c'est une équipe quand même qui est privée de plusieurs titulaires, hein, donc Marcos Senesi, Milos Terkerkez et l'attaquant Antoine Semenyo qui seront absents sur ce match-là. On va rappeler que cette saison, Liverpool a quand même déjà battu à 2 reprises Bournemouth. C'est 3-1 en Anfield Road en championnat et c'est 2-1 en League Cup au Vitality Stadium. Donc pour moi, avantage à Liverpool, mais il faut quand même être prudent avec les chéris.
Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'était pas des raclés non plus, quoi, Nadim.
Oui, c'était pas des raclés. Et puis surtout, les Cherries, ils restent quand même sur 12 points pris sur 15 possibles en championnat. Alors, c'était l'année dernière, puisqu'ils ont joué qu'un seul match cette année. C'est assez curieux en Angleterre. C'était le match de coupe il y a près de 2 semaines qu'ils ont remporté après avoir été menés 2-0 à la pause. Ils ont renversé cela en deuxième mi-temps pour s'imposer 3-1 contre les Queen's Park Rangers, QPR. Et donc, ils ont un seul match à leur actif en 2024. Ils seront frais à tous les sens du terme, puisqu'il fait assez frisqué en ce moment. Alors, Liverpool, son côté, c'est vrai qu'ils sont leaders. Ils sont emparés de cette première place. Manchester City a joué ses matchs en retard. Donc, ils sont vraiment leaders de cette première ligue. Ils ne comptent pas lâcher cette place de leader de sitôt, je pense, mais attention tout de même parce que Liverpool à Anfield et Liverpool en déplacement, c'est pas exactement la même équipe. Mo Salah sera pas là, c'est vrai que c'est nuancé par le quatuor que tu as cité, Chris. Donc N2 bref 2, ça semble un pronostic judicieux.
Ouais, merci pour ta précision. On va enchaîner avec 4 matchs de Liga à présent. C'est le match numéro 10, c'est le Celta Vigo qui reçoit la Real Sociedad. Le Celta Vigo, c'est une 16e place actuelle face donc à la Real Sociedad qui elle est 6e. Un double, qui tout double pour Nadim, il va nous dire pourquoi dans un instant, après que Chris nous ait expliqué pourquoi il fait de Vigo une base.
Oui, c'est une base. Alors, c'est vrai que c'est une petite base, hein, parce que ça serait une grosse surprise que le Celta Vigo s'impose devant la Real Sociedad. Mais comme je disais tout à l'heure, je trouve que la Real Sociedad, par exemple, piétine depuis la fin de l'année 2023. Les Basques n'ont plus gagné là depuis 4 journées. C'est 2 nuls, notamment devant Alavés et Cadix, hein, deux formations qui sont dans la deuxième partie du tableau de la Liga. C'est une défaite dans le derby basque à Bilbao. C'est une formation qui est quand même amputée de plusieurs titulaires. Hein, donc, à Marie Traoré qui est partie à la CAN avec le Mali, Takekubo qui est parti à la Coupe d'Asie avec le Japon, et il y a deux suspendus aussi, Alex Remiro, le gardien de but, et le milieu de terrain Mikel Merino, sont deux titulaires en moins. Donc en plus, si on veut, on peut rajouter aussi pas mal de blessés, hein. Carlos Fernandez, Sadik, c'est des joueurs qui sont plutôt des compléments, mais voilà, quand on a déjà pas mal d'absences, c'est important d'avoir des bons compléments sur le banc, et ces joueurs-là sont blessés. Audrey Odzola aussi est blessé, Becker est blessé, hein, qui arrive de l'Union de Berlin. Donc voilà, je me dis que la Real Sociedad peut chuter à Vigo, et surtout que le Celta Vigo est plutôt en bonne forme sur ce début d'année. C'est un nul à Majorque, c'est une victoire à Valence en Coupe du Roi, et c'est un succès à domicile devant le Betis Séville en Liga. Donc c'est plutôt des performances intéressantes. Donc pourquoi pas une surprise et une victoire de Vigo.
Ouais, Nadim, Chris nous dit que la Real Sociedad patine un petit peu. Est-ce que ça viendrait expliquer ton quitte ou double, soit le tout ou rien pour la Real Sociedad justement?
Oui, le tout ou rien, parce que l'effectif de la Real Sociedad, même sans quelques joueurs absents, reste de meilleure qualité. Ils produisent par moments du très très beau jeu. Il y a toujours Oyarzabal qui est dans cette équipe, qui peut la tenir à lui seul. D'ailleurs, c'est grâce à lui que la Real Sociedad justement s'est redonné un peu de confiance en s'imposant en coupe contre le voisin Osasuna, 2-0 ce mercredi. Donc cette victoire peut faire du bien à la Real, et c'est pour ça que j'ai les coches, parce que sinon ils n'ont pris que 6 points sur 15 possibles. Donc petit coup de mou, voire gros coup de mou qui va peut-être coûter justement une place en Champions League pour la saison prochaine pour la Real. Et côté du Celta, ils ont eu la bonne idée de prendre 4 points sur 6 possibles. Ils se sont extirpés justement de la zone rouge de la Liga et peuvent essayer de conforter ces bons résultats par une victoire ici. Je vois pas de match nul, parce que c'est quand même le Celta, c'est plutôt une équipe joueuse. On l'a vu également en coupe avec une belle victoire 3-1. Ça attaque beaucoup, ça encaisse pas mal. Donc le double 1-2 me semble judicieux.
Le match numéro 11, c'est l'étonnante équipe de Gérone qui reçoit le FC Séville. Vous êtes d'accord tous les deux? Donc Gérone, leader hein, du championnat, Chris qui accueille Séville seulement 17e.
Ouais, surprenante équipe, et c'est pas voilà, c'est une équipe qui va à mon avis jouer le jeu jusqu'à la fin de la saison, et qui va jouer le titre jusqu'à la fin de la saison. On l'a vu notamment face au Barça. C'est une formation qui va toujours de l'avant, qui presse son adversaire, qui est très intéressante, qui a beaucoup de qualité technique, hein, énormément de qualité technique. Donc je pense que Gérone devrait s'imposer devant une équipe du FC Séville qui va venir à Gérone, donc pour essayer de prendre un point. C'est une formation de Séville qui n'a décroché qu'une seule victoire là sur les 14 dernières journées. Elle est handicapée de son buteur Youssef Nesseri qui est parti à la CAN, donc ça c'est une grosse perte du côté du FC Séville. Et du côté de Gérone, on le répète, c'est une équipe qui est en pleine confiance, et une série de 16 matchs d'affilée sans la moindre défaite, toute compétition confondue. Alors c'est vrai que dernièrement en Liga, il y a eu un triste 0-0 à Almeria, hein, sur le terrain de la Lanterne Rouge, mais Gérone s'est de suite rattrapé et a rectifié le tir avec une belle victoire à domicile devant le Rayo Vallecano en Coupe du Roi. Donc avantage pour moi aux hommes de Michel.
Ouais, Gérone leader, je le disais, Nadim, face à Séville 17e. Et quand on regarde la répartition, Gérone n'est qu'à 51% sur sa pelouse. Est-ce qu'on peut dire que Gérone a un déficit de notoriété du côté des parieurs et que tout le monde ne se rend pas compte forcément de la place aujourd'hui qu'occupe Gérone dans le championnat espagnol?
Mais complètement. D'ailleurs, ça, les pronos et les répartitions qu'on voit actuellement, c'est typique de tout ce qui est effet surprise, et surtout d'une équipe donc qui n'est pas un grand nom, qui vient s'installer dans le haut du classement. Les gens, ils ont en général, les gens et aussi bien les bookmakers qui cotent de façon aussi bizarre, ils ont un temps, pas d'avance justement, mais un temps de retard pour accepter cela. Il y avait eu le cas avec Leicester qui n'était jamais favori quand ils ont remporté leur titre en 2016. Voilà, à chaque fois, on les voyait tomber. Ils avaient des cotes de 2,50 à domicile contre les Manu, les Tottenham et compagnie, et ils les battaient quand même. Donc là, c'est un peu le même phénomène. Alors c'est vrai qu'il y a juste eu ce petit nul inquiétant à Almeria, où c'était un match très très houleux. Ils ont pris un carton rouge et ils ont été vraiment dominés dans tous les compartiments du jeu. C'était assez inquiétant, mais ils ont bien rebondi, comme tu l'as dit, Chris, face au Rayo, en menant 3-0 très rapidement. Ils ont plié l'affaire rapidement, et ce sans leur meilleur attaquant, l'Ukrainien Dovbik, qui vraiment fait du bien à cette équipe et fait partie des top players de cette équipe. D'ailleurs, je ne sais pas à combien il va être vendu, mais c'est un autre débat. Et puis, Séville, de son côté, est très, très inquiétant et en train de jouer avec le feu. Il y avait eu d'ailleurs une question sur le chat d'un auditeur qui nous avait demandé ce qu'on voyait pour le Séville à la Alavés. Et on avait dit qu'on était quand même assez inquiet pour cette équipe de Séville. Et elle s'est inclinée dans un match capital face à un concurrent direct. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus qu'un point d'avance sur la zone rouge. Ça va être compliqué pour eux et face aux déferlantes de Gérone qui jouent à 200%. Je les vois perdre.
Très bien, merci. Le 12e match, c'est le Real Madrid, deuxième du classement, 48 points, qui reçoit Almeria, bon dernier, avec 6 petits points. Et de façon très étonnante, Nadim nous expliquera pourquoi il laisse traîner le N donc entre ce match Madrid face à Almeria, qui paraît quand même être deux extrêmes, alors que Chris, lui, joue la logique.
Oui, je joue la logique. Après, on peut peut-être aussi comprendre ce nul avec, parce que le Real joue quand même 3 jours après une prolongation et une défaite devant l'Atlético Madrid. Le Real a vécu sa première défaite de la saison là, donc cette semaine. Donc c'est peut-être un petit coup de mou hein, pour le Real. On ne sait jamais. Hein, ça peut jouer dans les têtes. Mais quand même, je pense que le Real devrait pouvoir s'imposer. Almeria, c'est 14 défaites et 6 nuls en 20 journées. C'est aussi la plus mauvaise défense de la Liga avec 43 buts encaissés. Almeria, c'est 9 défaites sur les 9 derniers déplacements en Liga. Donc pour moi, un large avantage à cette équipe du Real Madrid qui a réussi de bonnes performances là sur ce début d'année. Hein. C'est quand même 15 buts là en 5 matchs. C'est une victoire, on le rappelait tout à l'heure, contre le Barça 4-1. Pour moi, voilà, avantage aux Madrilènes. Mais c'est vrai que voilà, ce nul n'est pas illogique après une prolongation. Quand même.
Ouais, le Real Madrid, je regarde, c'est la répartition numéro 1 pour l'instant de la grille. Nadim, est-ce que ce n'est pas non plus jouer contre justement une répartition qui, selon toi, est un petit peu trop élevé?
Alors, j'ai pas trop regardé la répartition, mais je me doute que le Real est archi favori sur ce match, mais j'ai quand même quelques raisons qui me font croire en une petite contre-performance du Real, et quand on a assez de raisons pour une grosse surprise, il faut la tenter. Donc déjà, Almeria, il vient d'accrocher Gérone en ayant fait très très bonne figure face au leader de la Liga. Alors, leader ou pas, parce que le Real a quand même un match de moins, et s'il venait à remporter le match en retard, il passerait devant. Mais bon, face à une équipe qui est actuellement leader, ils ont réussi à leur tenir tête à domicile. Et je me dis, pourquoi pas face à un Real qui accuse un peu le coup quand même, parce que ça va être le 6e match des Merengue en moins de 20 jours. Depuis le 3 janvier, ils ont déjà joué 5 fois avec justement cette phase finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, qui plus est, donc un petit choc climatique au passage et un déplacement. Donc un coup de mou qui s'est fait déjà ressentir hier, qui plus est avec une prolongation de 30 minutes et un match perdu, donc qui n'est pas très positif moralement. Les joueurs, ils ont fini tous sur les rotules. Vraiment, ils étaient à bout après ces 120 minutes de jeu face à une équipe comme les Colchoneros qui demandent beaucoup d'énergie pour jouer contre. Donc peut-être un petit coup de mou, un petit match nul, comme ça peut arriver des fois. Il faut tenter les surprises. J'accepte que ce soit une très très grosse surprise, mais je l'attends quand même.
Ouais, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la difficulté de la grille, c'est le genre de haine qui peut foutre, comme on dit, tout le monde dehors sur ce genre de grille, Nadine.
Je l'espère, oui. Donc ça va être sûrement un haine très fin, au même titre que Liverpool et peut-être d'autres que je signalerai.
Ok, merci. Avant-dernier match, déjà, on termine donc avec la Ligue 1. C'est le Betis Séville qui reçoit le FC Barcelone, le Betis 7e, le FC Barcelone 4e. On verra que Nadim, il lui restait un triple dans la poche. Il s'est dit, je vais l'utiliser sur ce match. Et Chris, il joue presque un traditionnel N-fix.
Ouais, c'est ça. Après, si j'avais eu un triple, je l'aurais joué clairement sur ce match. Hein. Donc, alors c'est vrai que c'est un match qui va être compliqué, je pense, pour le Barça. On le disait tout à l'heure, je pense que Gérone et Real Madrid filent dans cette course au titre. Hein. Je pense que le Barça est définitivement largué. C'est une formation quand même qui a perdu énormément de points à l'extérieur sur ce début d'année. Hein. Donc, il y a quand même eu 5 nuls à l'extérieur dans le championnat d'Espagne, à Retafe, à Mallorca, à Grenade, à Valence ou sur le terrain du Rayo Vallecano. Ce ne sont pas forcément de grosses formations de la Liga. C'est une équipe qui privait toujours de joueurs intéressants comme Rafinha, Joao Cancelo, Arroyo qui sera suspendu, encore Gavi qui est toujours blessé. Le gardien Ter Stegen n'est pas là et je trouve qu'il n'a pas été remplacé dans les buts. Hein. Donc pour moi, c'est le gardien actuel du Barça est un peu le point faible aussi de cette équipe. La défense est le point faible aussi de cette équipe du Barça. Donc je me dis qu'il faut être prudent. Le Betis n'est pas forcément au mieux sur ce début d'année. Hein. C'est une défaite à Vigo en Liga. C'est une défaite à Alavés en Coupe du Roi. Donc le Betis, c'est quand même une série. Là, c'est une seule défaite sur les 15 dernières journées, mais c'est 9 nuls pendant cette période. Donc voilà, je me dis que ce match peut se terminer sur un match nul qui pourrait être intéressant pour le Barça, parce que le Barça pourrait laisser le Betis Séville derrière et le Barça pourrait donc consolider sa place de troisième de Liga. Donc voilà, difficile de faire un choix pour moi sur ce match.
Ouais, donc Nadim, ça dégaine la dernière cartouche.
Ouais, ça dégaine la dernière cartouche. J'étais plutôt même sur 1N sur ce match, mais c'est toujours un jeu dangereux que de décocher un favori comme le Barça qui a des individualités qui peuvent se réveiller à tout moment. Lewandowski est dans le dur, mais il a quand même mis une super reprise de volée justement contre le Real. C'est des joueurs qui gardent le talent en eux et qui peuvent vous faire un hold-up à n'importe quel moment, d'où le triple. Mais c'est un Barça qui est vraiment inquiétant, qui sort d'une déroute face au Real de Madrid en super coupe. Hier, ils se sont imposés en Copa face à une troisième division après avoir été menés. C'était pas non plus flamboyant. Et puis de son côté, le Betis en championnat est invaincu dans son stade. Donc, aucune défaite cette saison pour le Betis à domicile. Il n'y en a eu qu'une contre les Glasgow Rangers en Europa League à domicile. Donc une équipe très solide lorsqu'elle reçoit. Normalement, c'est 1N, mais je préfère assurer le coup avec le triple.
Voilà, c'est déjà le dernier match. Et c'est un match de Coupe d'Afrique des Nations que ce 14e match. C'est la deuxième journée du groupe F entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Votre balance respective penche du côté du Maroc avec un poil de prudence du côté de Chris.
Oui, alors le Maroc a réalisé une belle prestation devant la Tanzanie sur la première journée avec une victoire 3-0. On le sait, le Maroc, c'est une équipe qui va lutter, à mon avis, pour aller chercher ce trophée. C'est une formation qui est intéressante sur le plan offensif, hein, donc avec des garçons comme Ziyech, Youssef El-Nesyri ou Anaï Amin Harit. C'est une belle équipe du Maroc, mais je pense qu'il faut être prudent sur ce match. La République démocratique du Congo a concédé un nul face à la Zambie, malgré une grosse domination. C'est une formation qui est quand même intéressante sur le papier, avec des garçons comme Yohan Wissa, comme Gaël Kakuta, qui a fait un très très gros match, je trouve, devant la Zambie, Moutou Sami de Nantes, Kaloulou de Lorient, ou encore le défenseur central de Marseille, Chancel Mbemba. Je me dis que les Léopards peuvent s'accrocher et accrocher cette équipe du Maroc. Ces deux formations pourraient même se contenter d'un match nul. Le Maroc serait déjà qualifié et la République démocratique du Congo jouera la dernière journée devant la Tanzanie, qui est pour moi l'équipe la plus faible du groupe. Et en plus, il y a quand même une chose importante qu'il ne faut pas négliger, c'est la chaleur. Il y a très peu de rythme, je trouve, sur la plupart des matchs de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je me dis que ça peut être un match assez pauvre en intensité et assez pauvre en occasion. Donc, avantage Maroc pour moi avec cette belle victoire 3-0 et le secteur offensif, mais le Congo peut s'accrocher et prendre un bon point.
Ouais. Nadim, un avis sur ce début de Coupe d'Afrique des Nations ?
Bah c'est un début qui fait pas mal de dégâts chez les gros favoris. Alors le Maroc, lui, est au rendez-vous tout comme le Sénégal, mais on a vu que pour les autres gros favoris, c'était très compliqué avec quasiment que des nuls. Pour tous les gros, une défaite de la Tunisie également. Donc, la CAN, on l'avait annoncé dans notre petite analyse sur la compétition, que ça allait être très, très ouvert, qu'il y aurait des surprises dès le premier tour, que c'était difficile de s'avancer sur un vainqueur probable et sur les premiers de chaque groupe. Donc, ça confirme notre ressenti. Je vois que Chris, tu l'appliques bien en couvrant un petit nul qui arrive très, très souvent dans cette compétition, comme on en avait l'habitude. Moi, de mon côté, je préfère quand même faire confiance aux Lions de l'Atlas, puisqu'ils ont bien débuté. Je trouve qu'ils ont fait un très, très bon match contre la Tanzanie. Tous les joueurs offensifs se sont rassurés. Unai a marqué, El-Nesyri, le Sévillan également. D'autres joueurs ont fait des bons matchs. Hakim Ziyech n'a pas été trop mal. Il a délivré une passe décisive pour le premier but. Achraf Hakimi a été l'homme du match côté marocain, donc ils ont vraiment de sérieux atouts, ça joue collectivement, on l'avait vu à la Coupe du Monde avec la demi-finale. Donc ici, je les vois quand même passer face à la République démocratique du Congo, qui avait pourtant dominé la Zambie, mais qui n'a pu faire qu'un but partout contre la Zambie. C'est les Congolais qui vont avoir la pression sur ce match, puisqu'il leur faut au moins un nul, si ce n'est une victoire. Donc je pense que les Marocains vont profiter de cela. Leur efficacité offensive et notamment leur technique vont leur permettre, je pense, d'assurer les 6 points et la première place du groupe.
Messieurs, merci. C'était le prono du Loto Foot 15 numéro 6, doté d'un pacte de 500 000 euros. N'oubliez pas à valider demain soir, maxi, pour 20h40. On enchaîne avec la rubrique suivante qui consiste à la présentation de vos choix sélection bookmaker. On va commencer par Chris qui va nous parler basketball.
Oui, déjà du basket. Donc déjà ce soir à 20h, il y a un très très beau match d'Euroleague hein, que je vous conseille de suivre entre Monaco et le Real Madrid. Le Real, c'est le leader de l'Euroleague actuel. Monaco est pour l'instant 9e et s'accroche pour se hisser directement en quart de finale. Mais c'est une équipe de Monaco qui, on l'a vu dans cette Euroleague et la saison passée aussi, on l'a vu, est capable de tout et devant les grosses formations. À domicile, les Monégas restent sur 2 victoires devant Baskonia qui est 7e de l'Euroleague et devant le Barça qui est le dauphin du Real. Je pense que Monaco peut s'accrocher et peut-être réaliser une belle performance devant le Real, mais je vais quand même miser plutôt sur un gros match de Mike James. Hein, donc c'est la star de cette équipe de Monaco. Quand Mike James est performant, Monaco est performant. On l'a vu dernièrement, donc devant Baskonia, l'Américain a inscrit 26 points et Monaco s'est imposé. Devant Barcelone, c'était 20 points, Monaco s'est imposé. Devant l'Olympiakos et le Maccabi Tel Aviv, c'était 24 points. À Gaston Médecin, Mike James est très souvent performant. À l'extérieur, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il serait intéressant de miser sur plus de 21,5 points pour Mike James. C'est coté à 2,80. Demain, il y a 18h30, il y a donc la Coupe d'Europe du rugby donc qui continue la dernière journée. C'est le Stade français qui reçoit les Stormers, c'est les Sud-Africains. Donc c'est déjà un déplacement très long pour les Sud-Africains. Donc déjà, ça c'est important et il faut le souligner. Les Stormers sont déjà qualifiés pour les 8e de finale de la Champions Cup. Donc je pense qu'ils n'auront pas forcément grand intérêt à aller s'imposer au Stade français. Du côté du Stade français, c'est une formation qui est éliminée de la Champions Cup, mais qui doit s'imposer pour être éventuellement reversée en 8e de finale de la Champions Cup. Donc les Parisiens vont tout donner sur ce match-là et à domicile, je pense qu'ils peuvent s'imposer devant ces Sud-Africains. On va rappeler que les Stormers, c'est 5 défaites là sur leurs 5 derniers déplacements. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés à l'extérieur. Donc une victoire du Stade français, c'est coté à 2,45. Et enfin, je me tourne sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est samedi à 21h, c'est le match entre la Tunisie et le Mali. On l'a vu, la Tunisie a perdu son premier match devant la Namibie, une défaite 1-0. Le Mali s'est imposé devant l'Afrique du Sud 2-0. Je pense que le Mali a le potentiel pour s'imposer devant les Tunisiens. Alors c'est vrai qu'on dit que les Tunisiens régulièrement sont souvent en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais je pense que là le Mali est quand même au-dessus. C'est une formation qui a quand même des garçons très intéressants, Aïdara, Bissouma, Kouyaté, Traoré, Sako, Doumbia. Les attaquants là sont très puissants et rapides, hein, Sinayoko et Koïta, donc ils ont fait une très belle performance devant l'Afrique du Sud. Donc je pense que le Mali peut s'imposer, la cote elle est à 2,70. Et enfin, je me tourne pour mon fun vers un match de Coupe de France. Je le disais, il peut y avoir des surprises sur certaines rencontres. Châteauroux peut accrocher cette équipe havraise et dans des conditions difficiles. On sait que dans l'Indre, actuellement, il neige, donc ça peut être compliqué pour les Havrais et sur un terrain qui peut être difficile. Donc, je me dis que le 0-0 à l'issue des 90 minutes n'est pas impossible. C'est coté à 8 et pourquoi pas après une qualification du Havre au tir au but.
Merci à toi, Chris. Avant d'enchaîner avec Nadim, on vous rappelle que les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez de l'aide et des conseils sur info-joueur-service.fr. Qu'est-ce que tu nous as concocté, Nadim ? Tu vas nous parler de Jordanie, Corée du Sud pour commencer.
Oui, Jordanie, Corée du Sud. Je vais tenter les deux équipes qui marquent hein, pour ne pas proposer que des buteurs parce que j'ai vu cette équipe jordanienne lors de son premier match contre la Malaisie et elle m'a vraiment bien plu. Ils sont imposés 4-0 face à ces Malaisiens. Deux joueurs ont mis des doublés, c'est Al-Mardi et Moussa Al-Tamari qu'on connaît bien du côté de Montpellier et de la Ligue 1. Donc un très très bon match de ces Jordaniens qui pourrait créer la sensation. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'il y a une autre sensation avec les Irakiens qui m'avait également bien plu, mais dont j'ai pas parlé. Donc, les Irakiens qui sont en train de mener contre les Japonais. Donc, c'est possible quand même, même si c'est une compétition un peu déséquilibrée. Il peut y avoir des petites surprises, mais je vois au moins les Jordaniens marquer un but et normalement les Sud-Coréens également. Donc, les deux équipes qui marquent à 2-10, ça semble pas mal. Les Sud-Coréens s'étaient imposés lors du premier match face au Bahreïn 3-1. Donc, ils avaient quand même encaissé un but lors de cette victoire. Les clean sheets, c'est pas vraiment la priorité de ces équipes lors de cette Coupe d'Asie. Elles font le minimum, elles ont assez de talent, surtout les favoris. On a vu le Japon lors de l'ouverture, ils ont encaissé 2 buts contre la faible équipe du Vietnam. Donc ils savent qu'en forçant un tout petit peu, ils vont finir par s'imposer. Et derrière, c'est pas la grosse rigueur défensive. Donc 2-10 pour les deux équipes qui marquent, ça me semble assez intéressant. Ensuite, là j'ai choisi 2 buteurs, donc on commence par le gunner que j'apprécie beaucoup, c'est Bukayo Saka, buteur à 2,70 demain dans le derby face à Crystal Palace. Alors c'est vrai qu'Arsenal a peut-être perdu le championnat durant ses fêtes de fin d'année et donc justement les matchs du Boxing Day. Ils doivent se relancer dans ce derby face à Crystal Palace en marquant si possible pas mal de buts. Surtout Saka, c'est le dernier buteur des gunners à avoir marqué. Et lors du match en 2023, face à cette même équipe de Crystal Palace, Saka avait mis un doublé. Et donc, j'espère que c'est une équipe qui lui réussit bien. On a parlé hier, on a enregistré et publié une émission sur les buteurs. Donc, ça reprend un peu mes critères de sélection qui sont la forme du moment et puis également la réussite face à une certaine équipe. Donc ici, il est en réussite face à Crystal Palace avec un doublé l'an dernier. Et enfin, du côté de la Juve, donc pour faire plaisir à Baggio, mais surtout pour essayer de faire plaisir à mon portefeuille, je vais tenter le Serbe Dusan Vlahovic, qui est revenu à son meilleur niveau, celui qu'on avait connu du côté de la Fiorentina. Il semble un peu, il semble plus enclin aux blessures, avoir bien récupéré de tout ce qu'il a contracté ces derniers mois ou dernières années. Il est au sommet de sa forme, donc il a mis un doublé récemment contre Sassuolo lors de la victoire 3-0. Et le match d'avant sur la pelouse de la Salernitana, il a été l'auteur du but victorieux dans le temps additionnel. Donc le Serbe est vraiment en forme. Je trouve qu'avec une cote de 2,55, c'est une petite value quand même à tenter. Et enfin, pour le fun, je vais reprendre notre Jordanie-Corée du Sud. Et là, on va cibler le but de Moussa Altamari. C'est coté à 7,75. Je trouve que c'est quand même une excellente cote pour un buteur, puisque vous voyez que les autres buteurs, en général, c'est 2,50 ou 3. 7,75, pourquoi pas, pour un joueur qui a déjà mis un doublé au premier match. Alors, c'est vrai que la Corée du Sud, c'est pas la Malaisie, mais ça peut encaisser un ou deux buts à tenter.
Les gars, merci à vous deux pour votre travail et votre sélection que vous nous avez proposée aujourd'hui. C'est déjà l'heure de la dernière partie de l'émission, qui consiste à répondre aux différentes questions qui ont été posées dans les différents chats. Je vais prendre la première question. C'est une question de Jack. Alors je suis pas certain de bien la comprendre. Bonjour, j'ai un problème. Mes grilles disparaissent, elles sont supprimées et je joue en ligne. Comment faire? J'ai que les résultats et live score. Il faut des précisions. Là, je pense Nadim, parce que
ouais. J'ai une toute petite idée, mais il faut vraiment qu'il précise. Si tu fais ta grille sur Pronosoft et que tu ne l'affiches pas, elle est considérée comme non validée chez nous. Mais en ligne, déjà, tu peux pas jouer en ligne à la FDJ si tu parles du lotofoot. Donc, ça peut pas être ça. Faut vraiment que tu précises exactement ce que tu fais. Et envoie-nous des screens, s'il le faut, au contact Pronosoft avec tout le descriptif de tes étapes. Parce que les grilles ne disparaissent pas comme ça et on ne peut pas jouer en ligne au lotofoot.
Une remarque d'Arnaud à présent qui nous dit « Merci pour la vidéo sur les buteurs, très bien faite. On espère arriver à passer une cote à 100. » Merci à toi Arnaud de le souligner, c'est une vidéo qui a été mise en ligne hier. Elle est très complète puisqu'elle dure à peu près, je crois, 1h15 de mémoire. Où Nadim, bah, on peut faire un bref rappel, tu détailles tous les types de paris buteurs, les tenants, les aboutissants, les points de règlement, et j'en passe et des meilleurs. On peut peut-être dire un mot là-dessus.
Oui, tout à fait. Donc, elle est disponible sur notre chaîne. C'est tout récent. On l'a publié hier. Donc, on a passé en revue avec Raph tous les types de paris autour des buteurs, tous les avantages de chaque pari, comment les appréhender, et puis aussi pas mal d'aspects réglementaires à connaître avec tous les cas d'annulation. Donc, nous, sur le contact pour nos softs, on reçoit tous les jours plein de messages qui nous disent pourquoi c'est annulé ici, pourquoi c'est pas annulé là. Il y a même des subtilités sur les chronos qu'on explique légèrement parce que la 15e minute, certains pensent que ça fait partie du deuxième quart d'heure et pas du premier, etc., etc. Je vous la conseille vivement. Donc, elle est dispo sur notre chaîne. Et puis là, justement, si tu veux une cote proche à 100, Arnaud, proche de 100, pardon, ben, il faut pousser jusqu'au doublé de Moussa Altamari. Il est à 65. Alors, c'est un peu délire, mais forcément, pour passer des cotes très, très grosses, il faut tenter des petits délires. Donc voilà, il y avait Koudous qui n'était pas si délirant que ça, qu'un membre du forum que je connais personnellement, Babsling, a pris hier. Koudous doublé, c'était une cote à 50. Donc, il y a vraiment des fois des cotes folles. Au niveau de la CAN, il y a peu de buts, donc ça monte très vite. Et puis, au niveau de la Coupe d'Asie, dès qu'on prend un buteur de l'équipe outsider, ça s'envole également très rapidement.
Question de Modeste Yef. Bonjour, peut-on avoir un Lotofoot 15 pour la Ligue des Champions de février? Nous demande-t-il, car il y a moins de 14 matchs, je pense, en Champions League.
Ouais, alors en général, je n'ai plus l'historique de ce que la FDJ fait, mais déjà, pour la Ligue des Champions en février, en plus, les huitièmes sont décalés sur 2 semaines, donc il n'y a que 4 matchs aller de la Ligue des Champions. En général, ils complètent avec les matchs d'Europa League et de Conference League. Je pense que ça fera un 15 avec la Conference League et l'Europa League, mais à voir. Il suffit de remonter dans notre historique sur le site pour voir ce qu'ils ont fait l'an dernier à la même époque.
Question d'Arnaud, à nouveau, qu'on salue pour sa fidélité et son activité dans le chat. Bonjour la team. Quand on joue en réduction N-1 sur le logiciel 1N2, donc je pense qu'il parle de l'application N2, pas de possibilité de rajouter un triple ou un double. Peut-on le faire sur Pronofoot Expert Plus? Et sur Pronofoot Expert Plus, comment fait-on pour exporter les grilles filtrées sur le téléphone pour les valider au tabac? Merci.
Oui, donc effectivement, on peut, dans la finition du jeu, elle n'existe que sur le logiciel Pronofoot Expert Plus, et on prévoit de rajouter cette fonctionnalité dans l'application, mais pas dans les mois à venir. Il faut peut-être attendre 1 ou 2 ans. Il y a beaucoup de priorités et ça prend du temps. Donc, tu peux le faire avec le logiciel. Et ensuite, pour le logiciel, il faut exporter ton jeu sur l'espace client qui se trouve sur le site pronosoft.com et non pas sur l'appli Pronosoft ou l'appli Pronofoot 1 et 2. C'est bien sur le site pronosoft.com que tu retrouves ton jeu exporté. Et donc, après, on va sur le téléphone, soit sur Chrome ou Safari ou le navigateur Internet que tu as sur ton smartphone, Pronosoft, tu te connectes dans l'espace client et tu retrouves tes grilles à valider.
Question de Raphaël qu'on remercie également pour sa fidélité. Bonjour la team, petite question pour nous. Comment fait-on pour ajouter des croix sur certaines grilles quand le logiciel les a créées? Il y a peut-être une vidéo. Merci la team.
Je ne sais plus si on le reprend ce point dans une vidéo. Je ne pense pas qu'on l'ait abordé, mais il faut aller dans le logiciel. Tu fais, une fois que ton jeu est finalisé, tu fais édition des grilles. Et donc, dans l'édition des grilles finalisée, il suffit de rajouter une croix ou d'en enlever. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as toutes les grilles réduites devant toi. Et là, libre à toi de cocher ce que tu souhaites.
Question de Ninja Purple. Mike James, 20 points et Monaco win. Boosté à 4, t'en penses quoi, Chris?
Ouais, c'est une belle cote, hein, c'est une belle cote. Je vous disais tout à l'heure, Monaco est capable de s'imposer face au Real. Et je vais juste rappeler quand même que l'an passé, Monaco avait gagné à Madrid. Donc, Monaco est capable. Et si Mike James est dans un très très bon jour, les Monégasques peuvent le faire. Et côté à 4, je trouve que c'est plutôt intéressant.
Merci pour tes précisions. Question de Tennis 92. Alors, bonjour l'équipe, merci pour le live. Comment ça se passe si on fait un jeu en groupe et qu'on partage le gain au prorata? Par exemple, nous, sur la grille à 1 500 000 euros, vous étiez plus de 60. Alors, je rappelle que c'était en 2007, donc les règles ont pu évoluer d'ici là, hein, puisque ça fait plus de 15 ans. Toi, tu es allé au centre FDJ, mais comment ça se passe une fois que tu arrives là-bas? Une personne de la FDJ se charge de faire les chèques pour tout le monde, point d'interrogation. Pareil pour le bureau de tabac, quand la somme est en dessous de 50 000, le buraliste fait un virement pour tout le monde, point d'interrogation.
Ouais, alors déjà, chez le buraliste, c'est pas 50 000 la somme, maintenant c'est 30 000 euros. Et donc, en dessous de 30 000 euros, tu ne peux faire qu'un seul virement. Donc, tu ne pourras pas subdiviser ton gain chez le buraliste. Si jamais tu veux subdiviser ton gain, tu dois aller dans un centre de paiement FDJ. Alors là, je sais pas pour les gros gros montants, mais sinon, dans n'importe quel centre de paiement officiel FDJ, tu peux aller toucher tes gains supérieurs à 30 000 ou essayer de les subdiviser. Il faut que toutes les personnes soient présentes. Ça, c'est normalement le minimum. Et puis, si on a les cartes d'identité originales à la place des personnes, ça peut passer. Mais ça, je peux pas le garantir. Je sais que toutes les personnes doivent se rendre au centre de paiement. On a dû le faire avec le successeur du groupe New Team, puisqu'on a conservé une bande de potes avec Baggio notamment. Ça nous est arrivé heureusement de prendre quelques gros coups et tout le monde s'est déplacé. On vient des quatre coins de la France, mais bon, quand il y a 50 000 euros à récupérer par personne, on prend un billet d'avion et on se réunit tous au niveau du centre de paiement.
Question de Kinoy. J'ai validé un ticket à 32 euros depuis 2 semaines. Mais j'ose pas aller vérifier. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi tu n'oses pas aller vérifier. Combien de temps je possède pour qu'il reste valide? Je crois que c'est 60 jours et qu'on appelle ça la date de forclusion.
Oui, c'est ça. C'est 60 jours après la promulgation, puisqu'on parle de termes techniques. Après la promulgation des résultats officiels, il y a 60 jours exacts pour retirer le gain. Mais je ne sais pas pourquoi tu n'oses pas. Est-ce que tu connais ton prono, tes résultats? Explique-nous un peu la psychologie derrière ça. Qu'on comprenne.
Oui, parce que si tu ne veux pas encaisser, on peut t'aider. Hein. On peut toujours organiser un petit concours et trouver quelqu'un pour aller faire vérifier ton ticket et encaisser. Question de Raphaël. Comment peut-on expliquer les codes
buteurs? Pardon, Raphaël. Oui, pardon. Il a quand même pris le rang 2. Il dit qu'il a le rang 2. Je n'avais pas noté ça.
Ah oui, oui. D'accord. OK. Enfin, oui, mais d'accord.
C'est bizarre.
Ben oui.
Ça se trouve, la grille, elle a payé 10 euros au deuxième rang.
Ah, peut-être qu'il n'ose pas parce qu'il a honte, c'est ça?
Non, je pense qu'il sait qu'il a le rang 2 et il pense que ça peut être très gros et il garde le suspense.
Ah, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas regardé les rapports Ah oui, là, mais il faut quand même qu'il nous explique la psychologie là-bas.
Oui, on taquine un peu, mais voilà.
Ben, c'est parce qu'on aimerait bien comprendre, c'est pour ça. Merci de préciser, Kinoy, si tu peux. Allez, question de Raphaël. Comment peut-on expliquer les cotes buteurs de fou sur la canne? Je trouve les cotes alléchantes.
Ben, oui, tout à fait. Alors, je vais tenter d'expliquer, en tout cas de mon point de vue. Je pense que la CAN, on l'avait donné en analyse pré-compétition. C'est une compétition qui est quand même assez fermée. Il n'y a pas plus de buts. Alors, hier, il y a eu un match fou avec avec, j'ai oublié du coup,
l'Égypte.
Avec l'Égypte, ouais, l'Égypte contre le Ghana et 3 buts en 5 minutes, mais c'est quand même assez rare, on se dirige plus souvent vers des 0-0, des matchs très fermés comme le match de la Tunisie avec un but encaissé en fin de match, c'est plutôt des matchs à under, et qui dit under dit peu de buts et donc peu de buteurs et donc forcément des cotes assez hautes pour les buteurs.
Merci pour ta précision. Il n'y a plus de questions. C'est donc la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le vendredi 26 janvier à 13h. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si tout ce qu'on vous propose vous plaît. Ça nous permet d'être encouragés. C'est super important pour nous. La team, je vous salue. Je vous souhaite un excellent week-end, des bons pronos et à la prochaine.
Bon week-end, bon pronos.
Bon week-end.